lundi 10 mai, il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb. Au programme ce soir, divinité, vérité vraie, du bleu, la couleur, des petits chatons mignons, des gros barbares poilus, et puis c'est déjà pas mal, et plein d'autres trucs. Attention, générique.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui par le truchement des ondes radiophoniques va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Nous commençons le mois de mai avec des bonnes nouvelles, hein. Déjà deux jours fériés. Bon, d'accord, hein, ce sont des jours fériés qui sont tombés un samedi, mais bon, hein, ne chipotons pas, ça reste quand même le meilleur mois de l'année. Des bonnes nouvelles puisque techniquement, hein, si tout se passe comme prévu, dès le 19 mai, on pourra commencer à reboire des verres en terrasse. Ah, je vous avoue que moi, ça me manque quand même beaucoup de siroter une petite binouze avec une BD sur les genoux et me faire interrompre sans arrêt par les gens autour de moi qui me demandent si j'ai pas du feu ou si j'ai... Quoique maintenant ça se fait de moins en moins. Enfin bref, reprendre le grand air, reprendre une vie sociale tout en restant prudent. C'est Seb au micro et nous sommes ensemble pour une heure. J'espère que nous passerons ensemble un bon moment. On va commencer tout de suite cette émission avec une bande dessinée jeunesse, une bande dessinée qui était éditée aux éditions de Dracou, une bande dessinée qui s'appelle Le Grimoire d'Elphi. C'est sur un scénario d'Arleston et Alouette et c'est Milly Ludwin au dessin et Hélène Noble aux couleurs. L'histoire, c'est celle d'une jeune fille qui s'appelle Elphie et qui vit avec sa sœur chez sa tante. On comprend très vite qu'une situation un peu dramatique a fait que les deux jeunes filles se sont retrouvées hébergées par une tante qui n'a pas l'air de vraiment bien les aimer et qui leur reproche la disparition, soyons crus, la mort de la maman des deux jeunes filles. Mais un petit retournement de situation fait que la troisième sœur, l'aînée, qui elle étant majeure n'a pas eu forcément à se coltiner la tante, vient rechercher ses deux frangines à bord d'un bus anglais transformé en librairie ambulante, une librairie dont le nom, le livre qui pue, porte bien son nom, hein, et doit son nom à un livre très particulier que je vous laisserai découvrir. Les trois sœurs vont partir répandre la littérature à travers le monde en commençant par une petite presqu'île bretonne, une presqu'île où, comme dans beaucoup de petits villages, eh bien, il y a des rancœurs un petit peu tenaces qui divisent le village. Ces rancœurs qui vont permettre aux jeunes filles de comprendre un petit peu ce qui se passe et elles vont pouvoir, elles, étrangères, mettre un petit peu leur grain de sel. Surtout qu'Elphie va se rendre compte de quelque chose, c'est que le livre que lui a cédé sa maman semble se nourrir des histoires qu'on écrit à l'intérieur afin de donner à son possesseur des pouvoirs magiques. C'est sorti le 3 février 2021, c'est un premier tome, c'est plutôt sympathique. Alors au départ on se dit mais tiens, mais c'est bizarre, les personnages ils sont beaucoup plus agressifs envers Elphie qu'envers sa sœur. Et puis on se rend compte que chaque personnage a ses petites blessures, que chaque personnage a été un petit peu plus travaillé que ce qu'on pourrait avoir de prime abord. Bon, à part la tante, hein, puisque je vais pas le dire de manière crue, mais ça reste une saleté. Hein. Les Dursley à côté de Harry Potter sont plutôt sympas. Graphiquement, c'est très très sympathique, c'est très coloré. On sent que c'est un petit peu girly sans vraiment tomber dans le girly à fond. Et ça passe vraiment très bien. Moi, j'ai ma petite Garance qui l'a lu plusieurs fois, qui a vraiment adoré, qui est vraiment très très sympa. L'histoire est assez drôle. Ça part toujours d'une rancœur hein, qui est un petit peu idiote, comme beaucoup de petites guéguerres, et qui va trouver des résolutions de manière assez rigolote, et c'est vraiment très très sympa. Il y a plein de petits rebondissements, il y a des choses qui peuvent se développer. Je redonne les références, il s'agit du Grimoire d'Elphie, c'est sur un scénario d'Arleston et Alouette, c'est de Minilvin au dessin, c'est des couleurs d'Hélène Lenoble, et c'est disponible chez Dracou. On va continuer avec une autre bande dessinée, une BD un petit peu différente. C'est une BD qui m'a fait un petit peu bizarre. Elle ne me tentait pas beaucoup au départ, parce qu'elle a un graphisme assez particulier. Il s'agit de Sherlock Bones, qui est une bande dessinée publiée aux éditions Michel Lafon. Sherlock Bones, c'est l'histoire d'un oiseau squelette, qui vit dans un musée et qui, avec un compagnon oiseau empaillé, va se mettre à enquêter sur la disparition du diamant bleu, un diamant énorme qui était exposé dans ce musée. Ce diamant bleu a disparu. Très vite, les soupçons semblent se porter sur un animal qui, lui, n'est pas empaillé. Un espèce de voleur, un raton laveur qui est dans ce musée. Je vais pas vous dévoiler l'histoire parce que ça, tout va tourner autour de cette enquête qui va être assez sympathique. Et graphiquement, c'est très particulier. On est sur un dessin au crayon, c'est du noir et blanc. Visuellement, c'est assez particulier parce qu'on a des animaux qui sont souvent cadrés assez proches et qui vont parfois s'adresser directement au lecteur. Alors, moins qu'on s'adresse, que l'oiseau ne s'adresse à son acolyte empaillé, des fois, je vous avoue que c'est pas forcément très très clair. La surprise, c'est que c'est quand même hyper drôle. Les personnages sont un petit peu absurdes. Ils vont essayer de faire des choses qui normalement ne devraient pas faire. Bon, déjà, un squelette qui bouge, normalement, ça n'existe pas. Mais c'est vraiment très agréable à lire, c'est très agréable à découvrir. Le fait que ça se passe dans un musée permet parfois, en fait, de mettre le lecteur devant des vignettes, devant les cartouches d'exposition, et ça nous permet aussi d'apprendre des choses, ce qui est plutôt cool, ce qui est plutôt agréable, et ça permet de se cultiver tout en lisant cette petite enquête policière dans ce microcosme du musée. L'histoire permet également, alors pas vraiment de deviner qui a volé le diamant, même s'il y a plusieurs pistes qui sont lancées, mais ça permet d'avoir des petits indices sur comment il a été volé. Vous pouvez, à mon avis, trouver avant Sherlock Bones, et c'est vraiment sympathique. Une petite bande dessinée que je vous conseille, hein, ça s'appelle Sherlock Bones, c'est de René Tremel et c'est aux éditions Michel Lafon. On va continuer dans la partie infantile, la partie jeunesse, je dis infantile, je raconte des bêtises, avec Blue, qui est une BD de chez... une BD dans... Je vais y arriver. Avec Blue, une BD d'Angela Vianello et qui est publiée chez Choc d'Homme. Blue, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Aqua et sort tout juste, enfin qui est encore en pleine adolescence, et son corps commence à se transformer, à se changer. Alors effectivement, à l'adolescence, le corps subit des mutations, des transformations qui font que on ne se sent pas bien. Un adolescent, bah voilà, son corps, une espèce de costume de soie qui n'est pas encore tout à fait à sa taille, qui est vraiment pas forcément agréable. Et petit à petit, en fait, Aqua va avoir des espèces de griffures dans le cou. Elle va avoir une espèce de la colonne vertébrale qui va devenir un petit peu saillante, des espèces de membranes derrière les mollets, les avant-bras. Elle commence à ne se sentir bien que lorsqu'elle est constamment abreuvée d'eau ou quand elle boit beaucoup. Et elle essaie de dissimuler en fait tous ces changements à ses camarades, alors que ces changements sont de plus en plus visibles et que ces changements l'impactent de plus en plus. Alors que ces changements l'impactent de plus en plus, et on sent bien le malaise et aussi la façon dont elle essaie de cacher ça à ses parents et aux autres enfants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va les gens vont commencer à essayer de comprendre en fait ce qui lui arrive, et c'est cette espèce de parallèle qui se fait entre la mutation du corps due à l'adolescence et la mutation du corps d'Aqua, espèce d'allégorie fantastique en fait du passage de l'âge enfant à l'âge adulte, qui est vraiment très très sympa, c'est vraiment très beau, c'est vraiment très très joli. Je me perds un peu dans mon film, mais Aqua elle va se confier qu'à certaines personnes, et c'est pas vraiment, et à quoi va commencer à essayer de vivre cette vie, puisque sa transformation le transforme en une espèce de personnage poisson qui est vraiment hybride. C'est très particulier, mais c'est vraiment très très beau. Le personnage, la couverture, bon, qui dévoile un petit peu des éléments tardifs de l'album, est vraiment sublime, en espèce de reflet, une espèce de texture liquide qui a été adaptée. Je pense que c'est du travail, il y a pas mal de travail numérique, même si je ne saurais être affirmatif. Et c'est vraiment super agréable. Le dessin est très joli, très très agréable, très très éthéré. Il y a une espèce de travail sur la science-fiction, sur des éléments graphiques de science-fiction qui sont vraiment vraiment bien exploité. Il y a une espèce de sensualité, même si on parle d'une ado. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on est entre la sensualité de l'adulte et encore le corps d'une enfant, et ça reste bien dosé. Il n'y a pas d'abus, il n'y a pas d'hypersexualisation, mais c'est très intéressant, et graphiquement c'est vraiment très très joli. Si vous avez l'occasion, il y a un jeu de couleurs qui est hyper agréable. Enfin, moi j'ai été vraiment séduit par ce travail là, et ça m'a beaucoup beaucoup plu. Je vous redonne les références. Il s'agit de Blue, c'est d'Angela Vianello, c'est publié aux éditions Shockdown, que je ne connaissais pas avant de découvrir cet album là et que je pense je vais surveiller, puisque ça a été une belle découverte. On va se faire une petite pause musicale avec Necrai Tolki, qui est un groupe japonais que je ne connaissais pas, que j'ai découvert et qui m'a beaucoup plu. La voix de la chanteuse est très particulière. Je vous laisse découvrir le morceau Ore ni tokcha zenbu ga kuso ni omo eru yo. Et j'espère que j'ai insulté personne. On se retrouve dans quelques instants.
101.5 FM.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. Vous venez d'écouter Necraï Tolki avec Orenita Ocha Zembuga Kuso ni Omoerio. Je pense que j'étais mieux efficace que la première fois. On continue en fait dans cette case de Seb avec une partie bande dessinée franco-belge. Là, on va parler de Sacré Chef de Fanny Briand, Emmanuel Delaconté et Christian Régoubet, publié aux éditions Flammarion. Si vous avez déjà mangé, eh ben écoutez, je pense que je vais vous redonner faim, puisque c'est un album qui, comme son nom l'indique, parle de cuisine. C'est un album qui parle d'un jeune garçon, un novice, Guillaume, qui doit faire un stage de critique dans le milieu du journalisme. Et parce qu'il passait à côté de chez son grand-père, son grand-père va lui proposer l'opportunité de devenir critique culinaire, stagiaire critique culinaire dans le magazine dont le grand-père s'occupe. Il faut savoir que le jeune garçon, pour son repas, est arrivé avec un sandwich triangle et il a commencé à se faire moquer de lui par son grand-père qui, lui, était en train de cuisiner un plat de longue haleine. Et l'échange entre les deux, sans être véhément, n'était pas forcément du même côté. Guillaume a tendance à considérer que le métier de critique culinaire consiste simplement à se faire rincer, à donner des bonnes notes, et c'est pas trop compliqué. Mais il va se rendre compte, à travers ce stage culinaire et surtout les rencontres qu'il va y faire, que la cuisine c'est quand même autre chose que simplement faire à manger. C'est parler aux gens, c'est parler au sens des gens, et il va rencontrer 8 grands chefs dans 5 régions de France et il va goûter de nombreux plats. Il va découvrir de belles émotions et surtout de belles histoires créées par ces plats et par ces grands chefs qui vont lui faire découvrir l'art de la table. Les arts de la table, je devrais dire. Ces chefs, ce sont des chefs qui ont une certaine renommée, dont certains ont pu être vus dans des émissions comme Top Chef. Il y a par exemple Alain Ducasse, il y a Laurent Petit, Guy Savoy, Gilles Goujon, Anne-Sophie Pic. Et du coup, ce sont à chaque fois des parcours différents de chefs, des envies de travailler des éléments qui vont permettre à Guillaume de découvrir ce que c'est être chef, ce que c'est que de faire à manger aux gens, et ce que c'est que d'essayer de susciter l'émotion par la saveur, par l'odeur, par le visuel. Parce que la cuisine, c'est, et ça j'ai toujours tendance à le dire, avec le sexe, la seule chose qu'on fait avec tous ses sens. On voit, on touche, on sent, on goûte et on entend. Faire la cuisine, ça a au moins cette sensualité et ce plaisir-là. Et graphiquement, c'est vraiment très sympa, puisqu'on est sur une bande dessinée qui va nous faire découvrir non seulement les cuisines et les éléments alimentaires, et si les personnages sont un petit peu, on va dire, classiques au niveau du visuel, ils sont pas hyper détaillés, il y a un soin tout à fait agréable qui a été apporté au niveau des aliments et au niveau des plats. On n'est pas dans quelque chose de réaliste, c'est pas l'intérêt, mais du coup ces plats sont suffisamment marquants pour que si on va manger, si nous allions manger chez ces chefs là ces plats, on serait capable de les reconnaître et on serait capable de les découvrir avec la même émotion qu'on peut les découvrir dans l'album ou que Guillaume peut les découvrir. C'est vraiment très agréable. C'est la majeure partie de la bande dessinée est en noir et blanc avec certaines touches de couleur à certains endroits et ça donne vraiment faim, ça donne vraiment envie de découvrir. On aurait presque parfois le fumet des plats qui sort des pages. C'est un petit coup de cœur, c'est vraiment sympa. Et pourtant j'avais peur de tomber sur quelque chose de trop didactique, trop reportage. Bon, il y a ce côté reportage, hein, ne nous le cachons pas, mais il y a aussi une petite histoire, l'histoire de Guillaume qui s'affirme, découvre, suit un cycle, on va dire, de découverte, mais pas que culinaire, et ça, je vous laisserai le découvrir. Je vous redonne les références, il s'agit de Sacré Chef, c'est d'Emmanuel Delaconté, Christian Regoubi et Fanny Briand, et c'est aux éditions Flammarion. Maintenant, partons un petit peu loin de la nourriture, mais dans le futur avec Love, Love, Love. C'est une série de Kit Toussaint et de Garrido. Une série que j'ai découvert parce que sa couverture était très jolie. On a les trois mots Love, Love, Love en lettres jaunes néon. On a une espèce de grande ville derrière qui reprend en écho Live, Live, Live. On a deux personnages, un personnage qui semble être un robot entièrement câblé dont les mains sortent d'une chemise. Ses mains sont des mains mécaniques. Et puis on a un personnage qui, tout en forme, avec un bon vieux fessier, des bonnes vieilles cuisses, semble complètement humain mais affublé d'un faux casque de robot, puisque c'est un carton qui a été customisé comme ça. L'histoire, c'est celle d'une société en fait où les robots ont été mis au ban de la société. Ils sont sujets à l'obsolescence programmée et on sait qu'il leur reste tant de temps en fait à vivre. Ces robots sont parqués dans des endroits, puisque de toute façon on se dit tiens, ils peuvent dormir debout, donc pas besoin de forcément faire de confort. Et un jour, c'est un robot qui va découvrir l'amour avec une jeune femme. Ce robot est un robot un robot qui se nourrit, se recharge d'affection, et ça va susciter des questions de la part de l'humaine qui veulent découvrir. Donc c'est une histoire d'amour entre un humain et une machine, mais une histoire d'amour qui est très tendre. Il y a un côté hyper agréable, hyper détendu, des petites questions, des remises en question, des moments où on ne sait pas vraiment si l'amour est pur ou si au contraire l'amour est intéressé, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et dans le fond, on a une espèce de guerre, on a une espèce de grogne des robots vis-à-vis des humains qui commence à monter, sourde au début de l'album, puis gagnant en puissance. Est-ce que deux camps qui se déchirent vont pouvoir trouver l'amour, un peu à la Roméo et Juliette, entre les deux familles qui se battent, et pourtant ces deux amoureux qui vont essayer de dépasser tout ça pour vivre leur amour. Je vous laisserai le découvrir. Graphiquement, c'est très très joli. Je sais pas comment le décrire, le dessin. Je pense que c'est du crayon. C'est y a un côté très tendre avec des grands yeux, des personnages avec des grands yeux qui font passer beaucoup d'émotions, qui sont vraiment agréables. C'est très rond comme dessin, même si y a du robot. C'est vraiment scénaristiquement parlant, ça pousse un petit peu plus loin que juste la simple histoire d'amour. Ça va poser des questions un peu plus complexes. Et c'est vraiment agréable, donc n'hésitez pas, hein, c'est Love, Love, Love de Kit Toussaint et Andrés Garrido, c'est aux éditions Dupuis et c'est vraiment un beau moment à lire. On va continuer avec quelque chose d'un peu moins tendre, d'un peu moins amour, avec Le Retour du Messie de Mark Russell, Richard Pass, Leonard Kirk aux éditions Delcourt. Ce Retour du Messie, comment dire ? C'est l'histoire de Dieu qui commence à en avoir ras-le-bol un petit peu des humains, qui Dieu a laissé sa chance à Jésus d'aller rédempter les humains, et Jésus, un petit peu trop bonne poire, s'est laissé faire et s'est laissé crucifier. Dieu lui a dit « Écoute, c'est bien simple, tu ne fous plus les pieds là-bas. » Et puis le temps passe... Dieu commence à regarder et puis se rend compte que il y a peut-être quand même moyen de faire quelque chose. Et si on confiait l'éducation de Jésus, le Fils de Dieu et Rédempteur, à Sunstar. Sunstar, c'est un super-héros qui a tout de Superman. Il va vite, il est capable d'être très très fort. Mais Sunstar a un problème. Il aimerait bien avoir un enfant. Simplement, c'est pas possible. Les médecins, ils ont regardé, ils ont dit, non, vous pourrez pas avoir d'enfant. Donc, tant pis. Et Sunstar, avec sa femme, vont se retrouver dans le rôle de parent avec ce fameux Jésus qui leur est tombé dans les mains sous l'ordre de Dieu, qui leur a dit éduquez mon fils comme vous êtes un super-héros, vous allez voir, faites un petit peu ce côté tortionnaire, montrez à Jésus qu'il ne faut pas forcément tendre l'autre joue, mais plutôt mettre un pain dans la tête du type d'à côté pour se faire respecter. Mais on se retrouve avec un buddy movie assez rigolo. On a Jésus qui effectivement est tout tendre, et puis Sunstar qui lui essaye plus d'être le rôle de super-héros puissant et très efficace, et qui pourtant cache des petites faiblesses. C'est assez drôle, c'est assez critique vis-à-vis de la religion, mais autant critique vis-à-vis des super-héros qui sont quasiment incarnés comme des dieux. Alors, c'est le gros reproche que beaucoup font à DC, hein. Ce sont des personnages qui sont très lisses, très... presque le personnage de Superman, c'est une divinité, il y a très peu de faiblesses dessus, que ce soit morale ou physique. Et du coup, ça permet de vraiment mettre en exergue les talents et qualités, que ce soit de Sunstar ou Jésus. Graphiquement, il y a un petit astuce assez rigolote, c'est que la partie super-héroïque et la partie biblique ont été confiées chacune à un personnage, à un dessinateur différent. Ça donne un effet un petit peu particulier, mais qui est pas désagréable à lire et qui rend vraiment le truc sympa. Donc on a un dessin qui va être très proche en fait des dessins de super-héros, on va dire classiques, puisque beaucoup plus lisse, bien mis en avant. Et les parties bibliques, il y a une espèce de travail un peu plus gratté, je sais pas trop comment l'expliquer, qui fait que ça rend les choses hyper intéressantes à lire et pas trop monotone. C'est ça qui est plutôt cool. On a des flashbacks entre les histoires de Jésus et puis les événements qu'il va vivre en parallèle avec Sunstar, et qui donnent des éléments assez sympas. Donc c'est plutôt cool à lire. Donc n'hésitez pas à chercher Le Retour du Messie, c'est le verset 1. Donc c'est le premier tome, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il faut savoir que c'est un ouvrage qui avait à la base, qui devait être publié chez DC Comics, hein, dont je parlais tout à l'heure, et qui a fini par être annulé sous la pression en fait de groupes religieux qui disaient que fallait pas. Et du coup, ça a été publié chez Ahoy Comics et c'est édité en français du coup chez Delcourt, ce qui est plutôt cool de découvrir ce genre d'album. Je redonne les références, c'est Le Retour du Messie chez Delcourt, et c'est de Mark Russell, Richard Patsey, Leonard Kirk et Andy Troy. Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale avec un morceau qui, à mon avis, était tout trouvé. Il s'agit de Jésus du groupe nantais Ultra Vomit.
Et maintenant, fidèles paroissiens, nous allons entonner le cantique 72 issu du recueil Ultrum Vomitae. Mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur.
êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. C'était Ultra Vomit avec Jésus. Je vais enchaîner sur deux ouvrages franco-belges qui, selon moi, sont des ouvrages indispensables et qui devraient être mis entre toutes les mains. Deux ouvrages complémentaires, tous les deux publiés aux éditions Delcourt. Le premier se nomme Fake News, c'est de Doane Bui et Leslie Play. Et le deuxième s'appelle L'Esprit Critique d'Isabelle Botian et Gali. Commençons avec L'Esprit Critique. L'Esprit Critique, qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est ce qui nous permet en fait de nous poser des questions sur le monde qui nous entoure. L'ouvrage nous présente un individu qui va, lors d'une soirée, rencontrer quelqu'un qui a un avis très différent de lui. Son premier réflexe va être de s'en moquer, de chercher à lui faire comprendre qu'elle a complètement tort. Et puis, une fois de retour chez lui, il va commencer simplement à... raconter des bêtises dessus et essayer de se conforter dans ses propres opinions avec des personnes qui partagent le même avis. Et c'est à ce moment-là précis qu'apparaît une jeune fille à la chevelure rose qui va lui dire « Hé, dis donc, t'as pas l'impression que t'abuses un petit peu là ? T'as pas l'impression que ce que tu fais, c'est pas très intéressant et que c'est pas très intelligent pour toi qui a l'air de penser que tu vaux mieux qu'elle, qui vaut mieux que n'importe qui ?» Et en compagnie de ce personnage, notre héros va découvrir l'esprit critique, va découvrir quels sont les biais cognitifs, quels sont les travers de pensée que l'on utilise parfois en toute bonne foi afin de se conforter dans les idées que nous avons. Par exemple, si je suis persuadé que la Terre est plate, je vais avoir tendance, malgré moi, même avec la meilleure intention du monde, à essayer de trouver des choses qui font que je vais me conforter dans mon idée que la Terre est plate. Chose qui est pas vraiment évidente, hein, puisque connaître ces biais cognitifs, connaître ces travers, ne va pas nous empêcher de tomber dedans. C'est hyper intéressant, puisqu'on va découvrir vraiment tout... de manière assez succincte, hein, parce qu'on ne peut pas rentrer vraiment dans le détail, mais ça va nous permettre de pointer du doigt en fait les travers qu'on peut avoir et qui nous empêchent d'avoir des conversations constructives avec des personnes qui ne sont pas de la même opinion que nous. C'est super intéressant puisqu'une conversation, une discussion, c'est l'échange et l'écoute de deux personnes qui vont échanger leurs avis, leurs points de vue sans forcément être d'accord. C'est pas juste rester tranché sur ses opinions, c'est vraiment essayer de comprendre les arguments de la personne qui nous parle, j'allais dire l'adversaire, mais c'est pas ça en fait avoir une conversation, c'est pas ça avoir de l'esprit critique, c'est vraiment écouter la personne qui n'a pas les mêmes opinions que nous et se faire notre propre idée. Quand on a suffisamment d'esprit critique, on se rend compte qu'il n'y a pas de curseur de blanc-noir. Il y a plein de zones de gris entre les deux. Il n'y a pas juste du bien et du mal. Il y a toute une latitude de position intermédiaire. Et cet ouvrage va vraiment nous permettre de découvrir ça, tout en gardant beaucoup d'humour, tout en nous montrant en fait par l'histoire et par la démonstration que même au fil du temps il y a des choses qui se sont passées différemment et que en toute bonne foi on a pu faire des erreurs, en toute bonne foi on a pu avoir des biais de confirmation, des biais cognitifs qui n'ont pas aidé à avancer et qui permettent toujours aujourd'hui d'avoir des éléments de pensée qui sont très différents de ceux que l'on aimerait bien avoir. C'est hyper instructif. Si vous êtes un tout petit peu curieux et que vous avez envie d'évoluer dans votre façon de parler aux gens et d'interpréter les choses, cet ouvrage, il est fait pour vous. Si vous êtes simplement curieux de savoir comment vous pouvez vous tromper en toute bonne foi, c'est aussi hyper intéressant. Par exemple, tout le monde ou presque, connaît le rasoir d'Occam, puisque c'est ce qui est, ça a souvent été popularisé par la série médicale Dr House, qui a tendance à dire que l'explication la plus simple, c'est celle qui est la plus, qui sera sans doute la plus vraie. Eh bien, c'est pas tout à fait ça. On peut imaginer, en fait, que le rasoir d'Occam pourrait se présenter d'une manière différente. C'est quelle est l'hypothèse qui pose le moins de questions supplémentaires et qui va être certainement la plus facile à expliquer. Et bien ça, c'est comme ça que c'est quand même une sorte de biais cognitif. Alors que c'est censé être un outil qui nous permet de mieux comprendre certaines choses. Et c'est super intéressant de découvrir ça en bande dessinée, parce que c'est des sujets qui peuvent être un petit peu lourds, tellement c'est vaste, puisque les biais cognitifs, il y en a plus d'une centaine. Et comment c'est pas très très glamour en fait ce qui se passe dans notre tête. Et ben Isabelle Botian et Gali ont réussi le pari de faire un ouvrage qui est à la fois instructif, à la fois fun, puisque on se prend pas la tête, puisque le personnage de l'esprit critique est un petit peu barré, et c'est vraiment très agréable, et ça permet vraiment de découvrir des choses de manière ludique et efficace. Je redonnerai les références des deux ouvrages juste à la fin. Le deuxième, lui, qui s'appelle Fake News, un terme qui a été longuement et énormément popularisé par un président qui vient de laisser ses fonctions, lui, il va principalement se centrer sur les informations. Je vais faire le parallèle de cette manière-là, mais les informations qui sont souvent reportées par des personnes qui manquent d'esprit critique ou dont l'esprit critique travaille d'une manière un petit peu particulière. Doan Bui, qui est journaliste, en fait, a rencontré beaucoup de personnes avec des opinions très tranchées sur certains sujets, que ce soit les platistes, les anti-vax, toutes ces franges de population avec des avis qui ne supportent pas en fait un avis contraire et qui vont tout faire pour confirmer, conforter l'idée de ce qu'ils ont. L'exemple certainement le plus frappant, c'est celui qui ouvre, on va dire, l'ouvrage, c'est celui d'une fusillade qui a eu lieu dans une école américaine et dont les gens certaines personnes ont passé leur temps à analyser les images, les différents éléments pour arriver à prouver que cette fusillade qui est intervenue quelques mois après l'investiture d'Obama n'avait été mise en place que pour aller dans le sens d'une légifération contre les armes à feu. Donc ces gens-là font tout pour prouver que les tombes des enfants décédés sont vides, que les parents qui sont interviewés sont des acteurs, que l'école était fermée au moment de la fusillade, enfin plein d'éléments. Et de corrélation en corrélation, ils vont se conforter dans cette idée. Et du coup, Doan Bui va explorer plusieurs sujets sur comment sont construits ces éléments, en toute bonne foi parfois, hein. C'est vraiment ça le plus certainement le plus déstabilisant, et comment on peut s'en prémunir, comment ça fonctionne ce genre de choses. Et c'est vraiment très intéressant. Vous verrez comment une toute petite ville peut servir par exemple d'usine à fake news, et comment simplement en changeant le titre d'un article parfois en quelques secondes, on colporte une information qui, n'étant jamais vérifiée, sera toujours retransmise à fausse. Et surtout va permettre à des gens de la retransmettre de manière virale, et qui fait que y a des choses qui sont mal perçues de manière assez parfois anodine. Graphiquement, on est sur quelque chose de très simple. Il n'y a pas de couleur, on est vraiment sur le reportage, sur de la partie plus efficace. On a vraiment un support de l'image. Les personnages, quand ils doivent être caricaturaux, ça fonctionne bien. C'est pas cloisonné, c'est pas casé. Et il y a plein de petites choses. On comprend plein. C'est vraiment hyper instructif. C'est vraiment hyper intéressant et ce sont deux ouvrages qui selon moi sont non seulement complémentaires mais qu'on devrait par exemple avoir dans tous les CDI d'école pour que les enfants puissent comprendre les bases de l'esprit critique. On devrait également le mettre dans les mains de pas mal d'adultes, ce qui leur permettrait peut-être parfois de réfléchir simplement avant de transmettre une information, soit pour mieux la comprendre, soit pour éviter de propager une information qui est fausse par rapidité, par manque de confirmation, et peut-être par paresse simplement de contrôler les choses qu'on va mettre en ligne. Je m'inclus dedans, j'ai vu des personnes, j'aime beaucoup ce sujet-là, hein, je me livre un petit peu, mais il y a des personnes qui, sous réserve de se considérer comme faisant partie des gens ayant un esprit critique ou travaillant sur la méthode scientifique, vont quand même se planter, même avec ces travers-là, et c'est des choses qui sont hyper intéressantes et qui sont très, très, très... vital pour tout le monde. Et je finirai avec une citation de Pierre Desproges, je pense que j'ai déjà repartagé, c'est « Avoir l'ouverture d'esprit, ce n'est pas avoir une fracture du crâne. » Voilà, c'est plutôt parlant. Ça peut faire mal, hein, avoir de l'ouverture d'esprit, mais c'est pour votre bien. Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale avec The Strokes, « Why are Sundays so depressing ?»
Like the swore Radio G 101.5 FM.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. Vous venez d'écouter The Strokes, Why Are Sundays So Depressing. On enchaîne sur la partie manga avec un premier ouvrage qui s'appelle Many Reasons Why. C'est de Minami Totaro et c'est publié aux éditions Omaki Books. C'est un ouvrage que je ne connaissais pas, que je ne m'étais pas posé de questions. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, tiens, ça me fait énormément penser à autre chose que je n'ai pas vu. Le titre, principalement, si je vous le dis comme ça, et si je vous dis que c'est une série sur qui va parler de suicide scolaire, ça doit vous faire penser automatiquement à 13 Reasons Why, la série à succès. Qui a énormément marché sur Netflix et qui a aussi fait énormément de polémiques. Je me suis renseigné, il y a un livre qui est sorti en 2007 qui a donné l'inspiration à la série, et la série est sortie en 2017 tout comme le manga. Donc il est fort possible que le manga se soit aussi inspiré du même roman, ou que le sujet ayant fonctionné ou ayant été évoqué, l'auteur a eu les idées de ce manga. Donc il est même fort probable que les deux œuvres, la série Netflix 13 Reasons Why et le livre, soient des adaptations du même roman d'origine. L'histoire de Many Reasons Why, alors je ne vais pas parler de 13, je ne peux même pas faire de comparaison parce que je ne l'ai pas vu, hein, tout simplement. Mais effectivement, les similitudes sur le sujet m'y ont fait quand même pas mal penser. Many Reasons Why, de quoi ça parle? Ça parle d'une jeune lycéenne qui est sans doute la lycéenne la plus populaire de toute sa classe, qui un jour va mettre fin à ses jours. Elle va se suicider dans l'enceinte de son établissement. Quelques jours passent et au retour des obsèques, les camarades de sa classe vont découvrir sur leur bureau des lettres d'adieu qui sont toutes nominatives et qui ont toutes été personnalisées. Chaque contenu est différent. Un petit peu perturbés, les élèves vont finir par demander à leur prof principal s'il est possible que leur de cours soit consacré à la lecture de ces lettres, et que peut-être les raisons du suicide de l'héroïne, du personnage principal, de cette lycéenne qui était sans doute la plus appréciée de toute la classe, que ces raisons seront exposées, ou qu'il sera au moins possible de comprendre les raisons de son geste. Et c'est là que tout va basculer. Les élèves vont commencer à lire chacun leur tour, ses lettres. Et ils vont commencer à se confier sur ce que, pour eux, signifient ces lettres. Que ce soit vis-à-vis des actions qu'ils ont pu avoir vis-à-vis d'Imeyama, ou des sentiments qu'ils ont pensé qu'Imeyama pouvait avoir. Tout va se jouer là-dessus, puisque chaque personne qui va lire une lettre va émettre ses hypothèses vis-à-vis des interactions qu'il pouvait avoir avec Imeyama, mais d'autres élèves vont pouvoir dire « Non, tu vois, moi, elle m'a dit ça, donc ce que toi, tu pensais, c'est pas bon. » Et peut-être que toi, tu pensais que Imeyama, elle avait des problèmes avec machin ou sur tel sujet, mais en fait, le problème, c'était toi. Et tous les étudiants, tous les élèves, comme ça, vont petit à petit se contrebalancer soit la responsabilité, soit essayer de trouver des pistes, soit impliquer quelqu'un dans les raisons du suicide d'Imeyama. Et du coup, on a cette espèce de petit jeu qui commence à se mettre en place assez doucement, puisque là, effectivement, c'est un premier tome, c'est un tome d'exposition, donc on a les pièces du puzzle qui commencent à s'assembler, mais il y a beaucoup plus de questions qui se posent dans le manga qu'ailleurs. Ce manga, c'est un manga qui est bien dessiné, hein, il n'y a pas de... C'est plutôt assez fin, c'est très détaillé, c'est bien détaillé. On a des environnements principalement scolaires, donc c'est pas tout à fait un huis clos, mais la salle de classe reste le décor principal. Il y a une façon de cadrer les choses qui donne une intensité qui est assez intéressante, qui est assez soutenue, et qui fait que ça rend le manga très palpitant. On se prend très très vite au jeu. Je l'ai dévoré, hein, le tome 1, parce que je ne savais pas, j'avais envie de découvrir. Là je suis un petit peu frustré, puisque du coup à la fin du tome 1 on apprend très peu de choses, il y a beaucoup plus de questions, il y a même un petit rebondissement assez inattendu. Là actuellement, si je ne me trompe pas, il y a 2 tomes en France et il y en a 7 en cours au Japon, et j'avoue, je pense que je vais suivre cette série, puisque c'est très très intéressant, et c'est assez captivant. Je redonne les références, il s'agit de Many Reasons Why de Minami Totaro, et c'est publié chez Omake Books. Je vous propose un petit peu de tendresse après ces histoires de suicide pas forcément très cool. On va parler de Fukuneko, les chats du bonheur. C'est publié aux éditions Nobinobi et c'est de Mari Matsuzawa. L'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va déménager avec sa sœur et son frère dans une ville un petit peu plus rurale, une ville qui de mémoire s'appelle Fukuneko, et elle va abandonner, on va dire, ses amis, ses camarades pour pouvoir aller dans cette ville-là. Pourquoi ils déménagent ? C'est simplement parce que c'est une ville qui est moins chère et que n'ayant plus de parents, c'est la grande sœur Mangaka qui subvient aux besoins de son frère et de sa sœur. Ils vont emménager dans une ancienne demeure familiale d'une ancienne grand-mère, et les deux enfants, les deux plus petits, vont découvrir des chats. Des chats qui ne ressemblent pas vraiment à des chats, mais plutôt à des humains, des bébés humains, avec des grandes oreilles et puis des réflexes de chaton. La grande sœur semble ne pas identifier ça de la même manière que son frère et sa sœur. Et ces chatons sont des espèces de chatons du bonheur qui vont s'attacher à une personne. Et l'héroïne, dont j'ai mangé le nom, Ako, la jeune Ako, va se retrouver à être prise d'affection par un de ces chatons qui semble la confondre peut-être avec sa grand-mère. Ces chatons, qui sont surnommés, on l'apprendra un tout petit peu plus loin, des Fukuneko, de Fuku bonheur et Neko chat, ont pour particularité d'essayer de rendre heureux les personnes avec lesquelles ils s'attachent. Et très vite, Ako va se rendre compte de la espèce de magie qui semble se mettre à l'œuvre dès que ces chatons sont contents et qu'ils semblent vouloir aider les personnes qui l'entourent. C'est très mignon, c'est vraiment super agréable, c'est tout choupi. Si vous avez des tensions, si vous avez passé une mauvaise journée, lisez un chapitre de Fukuneko, c'est très drôle, c'est tout mignon. Il y a des petits rebondissements, il y a des petites choses, il y a pas mal d'amitié, hein, c'est le power of love à fond, puisque c'est vraiment un bouquin sur le bonheur. Graphiquement, c'est très joli, c'est assez aéré, c'est plutôt cool. Les bestioles sont mignonnes, le chara-design est plutôt agréable et vraiment très 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 kawaii. Les héroïnes sont plutôt faciles à distinguer, hein, y a pas de problème de visage et d'identification des personnages, et c'est vraiment agréable, c'est vraiment une petite dose de bonheur, de fraîcheur. C'est des chatons mignons qui font du bonheur. Bah voilà, qu'est-ce que je vous dis de plus, ça parle un petit peu de mythologie japonaise, donc faut y aller, quoi. Donc n'hésitez pas, Fukuneko, les chats du bonheur, c'est aux éditions Nobinobi et c'est de Mari Matsuzawa. That's all, folks. suite. Vous venez de l'entendre, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. De mon côté, je prends toujours un plaisir immense à vous dégoter des ouvrages, pas forcément les plus simples. Je sors toujours de ma zone de confort pour pouvoir vous lire des choses ou vous faire découvrir des choses. Vous pouvez retrouver dans quelques instants le podcast de l'émission sur www.radio-g.fr. Onglet La Case de Seb. N'hésitez pas à le partager, ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. J'essaie de me mettre de manière un peu plus active sur la page Facebook et sur Instagram en publiant un Book of the Day. Je me garde les journées de lundi et dimanche de repos, mais tous les jours je vais vous publier un ouvrage. Alors, soit un ouvrage que j'ai déjà évoqué dans l'émission, soit un ouvrage que je n'ai pas évoqué, que je n'évoquerai pas ou que j'évoquerai peut-être. Et à chaque fois, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous aux pages et surtout partager. C'est important. C'est comme ça que je peux trouver de nouvelles lectures et le faire partager au plus grand nombre. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter, participer, hein, ça fait aussi partie de ça. J'essaierai de répondre à tous les messages que vous pourrez m'adresser. On se retrouve pour de nouvelles lectures dans 15 jours et en attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Ah ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? C'est fini. Rentre chez toi.
www.radio-g.fr.
Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Mais c'est le gros bazar.